Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais en premier lieu adresser un très grand merci à Jean-Yves Frétinier pour son amicale tout autant qu'imprudente invitation et pour les efforts proprement héroïques qu'il a déployés pour rendre cette rencontre de ce soir possible. Et mes remerciements vont également à l'Université de Rouen-Normandie et son magnifique programme, cette conférence acceptée, ça va de soi, Université de toutes les cultures, incarnée par Jean-François Brochec, dont la patience et la disponibilité ont eu l'occasion d'être mises à rude épreuve par les difficultés d'organisation dans le contexte chahuté que vous connaissez. C'est donc avec un plaisir encore plus vif que je me retrouve devant vous ce soir pour évoquer le thème, selon l'intitulé dont nous sommes convenus, avec le professeur Frétinier, pape, cardinaux et curie romaine, quelques repères contemporains. Il est justifié de parler de repères car c'est notre paradoxe d'ouverture. L'institution pontificale est à la fois très exposée médiatiquement et elle est même surexposée dans un moment particulier de son existence qui est la vacance du siège apostolique, autrement dit en temps de conclave. Elle est à la fois donc surexposée et largement méconnue quant à son fonctionnement, quant à ses procédures, quant aux hommes aussi, qui la peuplent, qui la composent, qui la font vivre. Et cette méconnaissance se traduit aussi par l'utilisation dans le débat public, dans les médias, d'expressions qui sont considérées à tort comme équivalentes ou comme des homonymes, le Vatican, la papauté, le Saint-Siège, le siège apostolique, etc. Des approximations qui, à vrai dire, ne sont pas nouvelles. C'est même un trait assez constant du regard porté par le gouvernement, sur le gouvernement pontifical par les observateurs extérieurs, les hommes d'État, les diplomates, les écrivains ou de simples voyageurs qui séjournent dans la ville éternelle et qui visitent la basilique Saint-Pierre. Les mêmes ont aussi, et ça c'est une dimension qu'on ne pourrait pas sous-estimer, ils ont véhiculé l'image quelque peu fantasmagorique de mystère du Vatican, supposé tapis dans les recoins du labyrinthe des palais apostoliques, qui a aussi ses caves, on pense à André Gide, et que l'on peut apercevoir depuis la colonnade d'Alexandre VII qui enserre la place Saint-Pierre. Ce corpus ne laisse pas davantage indifférente la fiction contemporaine, qu'il s'agisse des séries télévisées, depuis les Borgia jusque The Young, puis The New Pope, dont la diffusion a commencé la semaine dernière, ou qu'il s'agisse de films peut-être à plus grande portée, plus ambitieux, tels que L'Abbé Mousse Papam de Nanni Moretti en 2011. Tout cela voudrait suggérer et restituer les zones d'ombre et l'atmosphère de secret qui envelopperait les rouages pluriséculaires et les mécanismes réputés indéchiffrables du pouvoir romain. Cette mythographie, elle n'est pas à balayer d'un revers de main au nom d'une rationalité qui serait en l'espèce réductrice. D'autant que la papauté a pu elle-même, dans certains contextes et par certaines façons d'agir, alimenter cette perception, entretenir ces zones d'ombre. Alors je vous propose, pour tenter d'éclaircir ou d'éclairer un peu notre compréhension des institutions pontificales, d'identifier certains de ces points clés, de ces carrefours de signification qui nous font nous rappeler qu'il n'y a pas d'institution durable sans une dimension projetée, sans un imaginaire, au sens où l'avait avancé Cornelius Castoriadis dès les années 1970, en évoquant le concept d'institution imaginaire de la société. Pas d'institution durable, disais-je, et on va garder cet élément à l'esprit, puisque notre objet d'étude de ce soir est le plus ancien gouvernement du monde encore existant, encore vivant, et dont l'existence actuelle se nourrit de références à un passé plus ancien, des références qui sont largement aussi des révérences, des hommages, et des références anciennes qui nécessitent une forme de décryptage sur le temps long, pour le dire à la manière de Fernand Braudel. C'est ce que je vous propose de faire ensemble, en procédant en deux temps, en deux volets, et là je suis victime d'une formation académique, disciplinaire, qui est aussi une déformation en l'espèce. On ne raisonne qu'en deux parties et en deux sous-parties, c'est le schéma canonique. Le premier temps va correspondre au temps ordinaire de la vie de l'Église, c'est-à-dire lorsque le siège pontifical est occupé. Le latin dit « sede plena », quand la chaire de Pierre a un titulaire et donc que le pape est vivant. Ce qui va nous conduire à envisager l'évolution au long cours de la curie romaine et de ses rouages. Et le second temps évoquera la phase extraordinaire, celle que le latin désigne par l'expression « sede vacante », la vacance du siège apostolique, dont la phase culminante, vous le savez, c'est le processus électoral lui-même, avec les cardinaux réunis en conclave. Le vocable de curie romaine, qu'il faut sans doute définir d'emblée, nous vient probablement d'un terme volsque, du nom d'un des peuples de l'Italie avant Rome, de l'Italie pré-romaine, un volsque coveria, sous une forme primitive, qui aurait voulu dire assemblée, tout simplement assemblée. Ce vocable va passer en latin classique sous la forme de curia et va désigner, à l'époque républicaine puis impériale, une division du peuple de Rome, du populus romanus, puis le siège du Sénat, le siège du Sénat romain. À la période médiévale, cette curie se rapporte au palais pontifical, qui n'est pas encore le palais apostolique que nous connaissons, mais qui ont leur siège au Latran, puisque la basilique Saint-Jean de Latran, c'est l'église cathédrale du pape en tant qu'évêque de Rome. La cathédrale du pape n'est pas la basilique Saint-Pierre, mais la basilique du Latran. Et donc, la curie désignait le palais pontifical du Latran et l'ensemble des bureaux qui progressivement y sont annexés. Il faut attendre la fin du XIe siècle pour voir apparaître dans un document pontifical la première expression « curia romana », « curie romaine ». C'est un document du pontificat d'Urbain II, daté précisément de 1089, au moment même où la curie romaine, ou le gouvernement central, si vous préférez, de l'Église, devient une réalité saisissable sur le plan administratif, autour de deux noyaux, un secrétariat, qu'on va dénommer la chancellerie apostolique, et une sorte d'office de perception la chambre apostolique qui s'occupe de la gestion des revenus du Saint-Siège, les dons et les impôts. Mais ces deux structures n'ont pas de rôle politique. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, la papauté va surtout s'appuyer sur les cardinaux, personnages centraux de l'Église, surgit du clergé romain, et ces cardinaux forment une instance de conseil auprès du pape qu'on appelle le consistoire des cardinaux. Et les cardinaux deviennent dès lors, acquièrent un rôle qui n'est pas seulement pastoral ou religieux, mais un rôle de conseil politique et, si j'ose dire, stratégique de la papauté. Le pape prendra appui sur le consistoire pour prendre les décisions les plus graves de la vie de l'Église, telles que l'excommunication d'un personnage important, ça arrive plusieurs fois au pauvre empereur germanique, je dis pauvre, c'est une figure de style, au pauvre empereur germanique au long du Moyen-Âge, ou encore pour nommer à des bénéfices ecclésiastiques, à des charges importantes. Sur le plan structurel, une innovation très importante se produit en 1542, lorsque le pape Paul III, cher au cœur des Français parce qu'il relevait, il appartenait à la famille Farnèse, et c'est sous son pontificat qu'a été érigé à Rome le palais Farnèse, qui abrite, vous le savez aujourd'hui, les services de l'ambassade de France près le gouvernement italien, et au deuxième étage, l'école française de Rome. Ce pape Paul III, donc Paul III Farnèse, crée une commission spéciale de cardinaux qu'il déclare permanente, et non pas temporaire, permanente, pour diriger, pour orchestrer la répression de l'hérésie protestante, c'est ainsi qu'on l'appelle à Rome à cette période, de l'hérésie protestante qui se propage dans toute la chrétienté. Et c'est un des successeurs de Paul III, Sixte Quint, que l'on voit ici, qui règne donc dans le dernier quart du XVIe siècle, qui va procéder à la première configuration générale de la curie romaine, avec 15 structures que l'on qualifie de dicastères. Les dicastères, venant d'un mot grec connu dans l'Antiquité classique, dicasterion, et qui signifiait tout simplement tribunal, à cette période, à la période de la Grèce ancienne. Ces 15 dicastères établis par Sixte Quint comprennent, et c'est encore vrai aujourd'hui, trois types d'organes, trois types de structures. D'une part, nous avons, dans un premier temps, nous avons les congrégations romaines, qui sont peu ou prou, on y reviendra, l'équivalent de ce que sont les ministères pour un gouvernement séculier, pour un État standard. Les congrégations, donc, les tribunaux, organes judiciaires, et enfin, troisième type de structure qu'on appelle dicastère, les offices, c'est-à-dire les services administratifs, d'importance variable, à la tête de ces offices est placé un organisme très important, sur lequel on dira quelques mots tout à l'heure, la secrétairie d'État. La secrétairie d'État. Or, lorsque Sixte Quint promulgue cette réforme, il le fait dans un texte de 1588, Il place la commission chargée de la répression de l'hérésie protestante, fondée donc par Paul III, en tête, par ordre de protocole, par ordre de dignité, en tête de sa liste de 15. Et il justifie cette décision au motif que cette congrégation remplit le devoir le plus sacré qui soit, la préservation de la foi. La conservation du dépôt de la foi confié à l'Église par le Christ. C'est donc littéralement un saint office qui prend également la dénomination, beaucoup plus connue, de sainte romaine et universelle inquisition. Sainte romaine et universelle inquisition, ou saint office, qui devient donc une congrégation par l'effet de la réforme de Sixte Quint. Cette décision sixtine conduit à une transformation en profondeur des rouages de la curie, puisque les congrégations permanentes sont érigées en système. Sont érigées en système et elles sont régies par des principes de fonctionnement qui émergent progressivement. Cela va faciliter la professionnalisation des personnels, leur spécialisation, des procédures aussi plus régulières, plus efficaces. Ce qu'on a appelé la rationalisation du pouvoir, qui est aussi une forme d'absolutisme. Pour vous dire que la papauté n'échappe pas au mouvement qui saisit les monarchies séculières dans l'Europe moderne, la marche vers l'absolutisme. En revanche, les cardinaux vont sortir perdants de cette mutation, car ils vont perdre de l'influence. Ne resteront dotés de réels pouvoirs que les cardinaux qui seront placés à la tête des congrégations, qu'on va appeler les cardinaux de curie, qui vont jouer un rôle dans le gouvernement pontifical. Mais ils n'auront de pouvoir qu'à raison de la fonction qu'ils occupent, ce qui est une manière d'objectiver le fonctionnement du gouvernement de l'Église. On a pu parler à cet effet, et techniquement ça n'est pas faux, de bureaucratisation de la papauté. Une bureaucratie administrative. Du reste, le même Sixte Quint en profite, si j'ose dire, pour façonner le sacré collège, le corps des cardinaux. Notamment en disposant qu'il y aura un nombre maximal de cardinaux peuplant le sacré collège, 70. 70 en référence à un passage de l'Ancien Testament où Moïse se dote, ou se constitue auprès de lui, un conseil de 70 vieillards. 70 vieillards, la vieillesse étant, du moins à cette époque, synonyme de sagesse politique. Une sorte d'axiome puissamment remis en question de nos jours. Bref, ça c'est le premier principe, 70. 70 qui seront répartis en trois ordres. Les cardinaux évêques, il y en aura six, les plus éminents en dignité. Les cardinaux prêtres, au nombre de 50. Et les 14 derniers seront des cardinaux diacres, ne recevant pas, du coup, nécessairement le sacrement de l'ordination et, a fortiori, la consécration épiscopale. Ce nombre de 70 sera très largement respecté, il figure encore dans le Code de droit canonique de 1917, mais la législation en vigueur, le Code de droit canonique de 1983, n'en fait plus mention. ne fait plus mention de ce chiffre maximal qui a été dépassé à 3 reprises par Jean XXIII, qui règne de 1958 à 1963. Le nombre est dépassé par 3 fois. Paul VI, lui aussi, augmentera, le successeur de Jean XXIII, augmentera ce chiffre maximal de membres du Sacré Collège. Et aujourd'hui, on crève les plafonds, puisque le nombre total de cardinaux se monte à 223, après un point culminant de 228. C'est le record atteint en décembre 2016, après un consistoire réunis par le pape François. La réforme de Sixte Quint va définir encore pour aujourd'hui les grands principes de fonctionnement du gouvernement pontifical. Et à chaque fois qu'on créera une nouvelle congrégation, un nouveau dicastère, ce dicastère sera doté de règles similaires à celles définies en 1588. Il y a eu des créations nouvelles et des disparitions du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Qu'il suffise d'en mentionner une seule pour l'instant. En 1622, lorsque le pape Grégoire XV décide de créer un nouveau dicastère permanent, la congrégation dite De Propaganda Fide, la congrégation pour la propagation de la foi, surnommée la propagande, et qui est chargée, elle aura pour cela, pour cette raison, un pouvoir considérable au sein de la curie romaine, chargée de diriger toute l'activité missionnaire de l'Église dans les terres récemment découvertes en 1622 et tous les territoires qui sont dépourvus de hiérarchie ecclésiastique constituée, qui n'ont pas de diocèse, qui n'ont pas d'évêque. La propagande gérera tout cela. Alors, certes, rationalisation du pouvoir pontifical, certes, absolutisation, bureaucratisation, mais il ne faut pas perdre de vue que le pouvoir romain comprend, à côté de la curie, conserve des usages qui sont propres à ce qu'on appelle la cour pontificale. La cour pontificale qui est véritablement l'entourage propre, l'entourage personnel du souverain, qui a sa famille, avec des corps de prélats qui sont hiérarchisés par protocolairement, par préséance, et aussi une chapelle pontificale. Cette cour, elle, n'évolue que très peu à la période moderne, et il faudra attendre le début du XXe siècle pour qu'une réforme, elle date de 1908, une réforme de la curie, distingue cette fois la curie romaine, donc le gouvernement pontifical, de la cour pontificale, c'est-à-dire de l'entourage du souverain. Jusqu'en 1908, on peut le dire, à l'instar d'autres observateurs, que le pouvoir pontifical reste une structure d'ancien régime. Une structure d'ancien régime avec donc un gouvernement, mais qui coexiste avec une logique, avec des logiques de cour. Or, un des phénomènes captivants qui se produit au XIXe siècle se situe justement à la lisière entre les deux mondes de la curie et de la cour. C'est la montée en puissance considérable du secrétaire d'État. De la figure du secrétaire d'État qui devient, à partir de la Révolution française, notamment avec le cardinal Consalvi, qui est le secrétaire d'État du pape Pie VII, eh bien ce secrétaire d'État devient le numéro 2 du gouvernement pontifical et quasiment l'alter ego du pape, dont il dirige à la fois l'État pontifical, les États de l'Église, qui subsistent jusqu'en 1870, et d'autre part, toute la diplomatie pontificale, le réseau en particulier des nonciatures. Eh bien, ce secrétaire, il naît, cette fonction, elle naît de l'ancienne pratique propre à la logique de cour qui est celle du cardinal neveu, donc des pratiques népotistes, pour devenir une fonction objectivée, politique et administrative du gouvernement. Ça n'est pas sans intérêt si on considère que l'étymologie même du mot de secrétaire renvoie au secret. Le secrétaire, c'est celui en qui vous placez votre confiance. Confiance et foi ont la même racine. Le secrétaire, c'est l'homme du secret, l'homme de la sphère de confidentialité. Et on comprend qu'on navigue encore en eau trouble, en eau brumeuse, avec cette figure à la lisière de la cour et de la curie. Ajoutons un dernier trait de ce point de vue, c'est que cette secrétairerie d'État, puisque c'est le nom de cet office, secrétairerie, on redouble la syllabe en français, se voit flanquée, à l'époque de la Révolution française, d'une commission curieuse. Une commission curieuse qui va s'appeler, qui va être dénommée, les affaires ecclésiastiques extraordinaires. Les affaires ecclésiastiques extraordinaires, alors ça aussi c'est intriguant, qui va jouer le rôle d'une véritable cellule de crise de la curie, apte à éclairer le secrétaire d'État sur des décisions graves qui s'imposent à lui. Or cette congrégation, elle naît précisément en 1793, en raison de l'adoption en France d'un texte qui divise l'Église de France, la Constitution civile du clergé, et qui va, vous savez, générer d'une part une Église dite constitutionnelle ou jureuse, puisque la Constitution civile exigeait la prestation d'un serment de la part des ecclésiastiques, et d'autre part l'Église dite réfractaire, qui proteste de sa fidélité à Rome. C'est donc l'adolescence difficile de cette fille aînée de l'Église qui provoque la naissance de cette congrégation spéciale qui n'a pas de préfet et surtout dont la composition va varier selon le dossier à l'ordre du jour. Elle est donc à géométrie variable d'une très grande souplesse. Et après sa phase française, lorsque Pie VII récupère les États pontificaux, sa souveraineté temporelle, en 1814, cette congrégation subsiste, mais elle devient, pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires, donc susceptible d'examiner tout dossier d'importance cruciale qui surgirait dans l'actualité de l'Église. Cette congrégation, elle sera transformée en 1967 par Paul VI. Elle devient à ce moment-là le Conseil pour les affaires publiques de l'Église. Et dans la dernière grande réforme en date de la curie, celle de Jean-Paul II en 1988, c'est la constitution Pastor Bonus. Eh bien, cette constitution Pastor Bonus fait des affaires ecclésiastiques extraordinaires, une section de la secrétairie d'État. Donc, elle l'intègre pleinement. Ceci m'amène à évoquer brièvement avec vous une autre approche possible de ce gouvernement pontifical cede plena, quand il y a un titulaire sur la chaire de Pierre, c'est la curie à travers l'histoire de ses réformes, avortées ou abouties. Les pontifes et les cardinaux ont souvent et continuellement admis que l'Église elle-même était, comme le dit l'expression latine, « semper reformanda ». Il y a toujours quelque chose à changer, toujours quelque chose à faire évoluer, à perfectionner. Et à vrai dire, pour la période qui nous retient, c'est essentiellement la phase de la Révolution française, puis de l'occupation napoléonienne en Italie, qui apporte des idées nouvelles en matière d'administration. Égalité civile, avec éventuellement l'introduction du code civil, suppression des privilèges, suppression des droits féodaux, notion de liberté politique, voire d'égalité juridique. Tout cela ne laisse pas indifférent la papauté, le pouvoir romain, même si ce qu'elle en retient d'abord, ce sont les modèles administratifs, et en particulier la répartition qu'avait choisi la France en 1790 des départements, suivie en 1800, lorsque Bonaparte a perpétré son coup d'État, de l'institution des préfets qui sont placés à la place, à la tête de ces départements. En ce sens, on a retrouvé la trace, sous le pontificat de Pie VII, de deux plans de réforme présenté par un Monsignore pour instaurer les principes de la Révolution et les principes de Bonaparte dans les États de l'Église. Ces projets seront sans suite, mais il n'est pas indifférent qu'ils aient pu être présentés au pape et étudiés par son secrétaire d'État. La chose va revenir sur le devant de la scène au moment des révolutions de 1830. Sur le trône pontifical, un pape qui, à l'origine, si j'ose dire, dans la vie civile, mais elle n'est pas civile, elle est déjà religieuse, est un moine, le pape Grégoire XVI est entièrement terrorisé par les événements révolutionnaires, et un certain nombre de puissances européennes, par l'entremise du célèbre chancelier autrichien Metternich va adresser au pape un mémorandum qui enjoint au pape de moderniser l'administration des États pontificaux en introduisant, entre autres mesures, la liberté de la presse, la réforme du droit criminel et, si cela était possible, c'est le grand rêve de 1830 de ce point de vue, introduire des laïcs dans l'appareil de gouvernement, nommer des ministres laïcs à la tête de congrégations. Rome ne va pas réagir officiellement, et vous le savez, c'est un élément de son style de gouvernement, qu'on pourrait peu ou prou assimiler à faire la sourde oreille, on ne serait pas bien loin de la réalité des choses, mais sans se référer au mémorandum de Metternich, le pape Grégoire XVI procédera à des réformes d'envergure réelle, et notamment l'adoption d'un règlement judiciaire et administratif d'envergure en 1834. On réforme, mais sans donner beaucoup de publicité à la question. Il aurait tout de même fallu faire davantage. Et beaucoup ce milieu du XIXe siècle, vont dénoncer une plaie qualifiée de mal governo, le mauvais gouvernement des États de l'Église. On va fustiger l'archaïsme d'un gouvernement des prêtres qui est plus habile à entendre en confession qu'à gérer, par exemple, les finances publiques de l'État pontifical. Et les termes de la critique sont intéressants parce qu'ils l'attribuent tantôt à la faiblesse de la formation reçue par les élites de la curie, les monsignori et les cardinaux, elle-même imputable à la médiocrité des universités romaines. L'adage qui circule, c'est que Doctor Romanus Asinus Germanus, autrement dit, celui qui est docteur à Rome est un âne en Allemagne. Et cette critique cible aussi la vacuité d'un certain nombre de cardinaux qui sont donc interpellés, à l'image de ce pauvre cardinal Mezzofanti, qui n'était pas, sans doute pas la lumière à tous les étages, certes, comme le suggèrent les critiques du temps, mais qui, en tant que préfet de la congrégation des rites, avait cherché, dit-on, la signification du terme de Kyrie dans un dictionnaire latin, et comme il ne l'avait pas trouvé, eh bien, il en avait conclu que Dieu ne permettait pas la traduction de ce mot. Autre figuration d'un obscurantisme supposé de la papauté. On croit voir les cieux s'entrouvrir en 1846 avec l'élection d'un jeune pape, un young pope avant la lettre. Il a 54 ans seulement, on est donc loin de la gérontocratie. Et ce pape, c'est Pie IX. Pie IX, qui est encore aujourd'hui le recordman de la longévité apostolique avec 32 ans de règne, 32 ans de pontificat entre 1846 donc et 1878. Et les premières années de son règne sont tout à fait prometteuses dans la mesure où il innove selon l'esprit du temps en créant entre autres un conseil d'État, une cour des comptes, et surtout, il promulgue une constitution. Une constitution écrite reconnaissant un certain nombre de droits et de libertés au sujet de l'État pontifical. Reste que, on continue, mais très rapidement, le vent va tourner, à reprocher des faux-semblants. Ces conseils ne sont que consultatives. Elles n'ont aucun pouvoir décisionnaire. Ce ne sont que des façades de pouvoir. Et un personnage emblématique de cette phase qu'on appelle constitutionnaliste du gouvernement de Pie IX, un professeur de droit constitutionnel, le premier pour lequel on avait créé à Paris une chaire de droit constitutionnel, la toute première du genre, Pellegrino Rossi. Pellegrino Rossi est ministre de l'Intérieur de Pie IX. Il est assassiné en novembre 1948 sur les marches du palais de la Chancellerie à Rome. Dans la foulée est proclamée, vous le savez, la République romaine, avec un triumvirat sous la houlette de Giuseppe Mazzini, dont le professeur Frétinier est le spécialiste le plus éminent. Et cette République romaine abolit l'État pontifical, et voilà Pie IX contraint de partir en exil dans le royaume de Naples. Il en revient au printemps 1850 avec une déclaration: je ne redonnerai pas la Constitution, même découpée en petits morceaux. La phase libérale constitutionnelle est terminée et s'ensuivent deux décennies de véritables restaurations. Restauration du gouvernement pontifical, voulue certes par Pie IX, qu'on voit là à l'écran, et orchestrée de mains de maître, sans même avoir un gant de velours, hein, une main de fer, mais sans même le gant de velours, par Giacomo Antonelli, son secrétaire d'État, lui aussi indéboulonnable, puisqu'il œuvre aux côtés de Pie IX durant 28 ans, entre 1848, il est nommé pendant l'exil, jusqu'à sa mort, en charge, hein, en 1876. Et Antonelli sera diabolisé. Diabolisé comme le mauvais génie de Pie IX, qui tient un pape angélique à sa merci, qu'il modèle comme sa créature, alors qu'en principe c'est l'inverse, hein, c'est le secrétaire d'État qui est la créature du pape, mais là le rapport s'inverse, et un critique ambassadeur, tout de même autrichien près le Saint-Siège, conclut, mais après tout, ce contraste n'est pas surprenant. Jésus avait eu aussi Judas à ses côtés. Ça n'est évidemment pas sans porte. Cette phase de restauration, elle connut, vous le savez, une fin brutale en 1870 avec le parachèvement de l'unité politique de l'Italie, il y a donc 150 ans tout juste. Pour la papauté, cet événement a constitué un tournant décisif, une césure, notamment parce qu'elle a provoqué la suspension des travaux du Concile du Vatican, Vatican I, le premier concile du Vatican, travaux suspendus dans la mesure où Pie IX a estimé que les pères conciliaires n'avaient plus la liberté de débattre sous la pression italienne. Et les milieux anticléricaux ou même simplement libéraux ont pensé que la dernière décision du Concile Vatican I, la Constitution Pastor Aeternus, avait été un cadeau fait à ce pape Pie IX vieillissant. Une sorte de consolation pour les malheurs des temps qui s'étaient abattus sur sa personne. Le cadeau en question, c'est l'infaillibilité pontificale. C'est-à-dire la privation, dans certaines circonstances, la privation du droit et même de la possibilité de se tromper, d'errer et donc de tomber dans l'hérésie. Le texte de Pastor Aeternus ne promulgue pas, ne proclame pas une infaillibilité universelle du pape. Il faut deux conditions pour qu'elle soit engagée. D'abord, une condition formelle qui est une condition de solennité. Il faut que le pape s'exprime ex cathedra, c'est-à-dire du haut de la chaire de Saint-Pierre. Ainsi, un propos recueilli par un journaliste auprès du pape François dans un avion qui le ramène de l'Amérique latine ne peut pas engager l'infaillibilité. En outre, la déclaration du pape, ex cathedra, doit concerner la foi et les mœurs. Par conséquent, une analyse politique du pape n'engage pas un jugement infaillible. Ça, c'est le raisonnement théologique transposé ensuite dans le droit canonique. Les dernières années de Pie IX, 70-78, seront marqués par une atmosphère de fin de règne. De fin de règne durant lesquelles le gouvernement romain apparaît prisonnier autant de lui-même que de l'Italie. Jusqu'à Benoît XV, ensuite, les papes vont se prétendre prisonniers de l'Italie en raison de la prise de Rome et de la disparition des États pontificaux. Et c'est une atmosphère délétère, une génération de cardinaux vient à mourir, il y a besoin de renouvellement, et même le cardinal doyen du Sacré Collège le confie à un journal romain. Tout de même, en 1846, nous avons élu un Saint-Père, pas un Père éternel. Le besoin d'un air nouveau se fait sentir et s'ouvre alors le temps des adaptations, de réformes de la curie, qui vise à compenser la perte des États pontificaux. À cette tâche s'attellera le long pontificat de Léon XIII, entre 1878 et 1903, un long pontificat qui vise, notamment dans les premières années, à remettre au travail les pauvres prélats qui jusque-là s'occupaient d'administrer l'État pontifical et qu'on voit errer dans les couloirs des palais apostoliques avec un tout petit dossier très très mince sous les bras qui laisse supposer qu'il est vide, ils sont désœuvrés. Donc on va les remettre à l'étude auprès des congrégations subsistantes qui gouvernent l'Église universelle avant que surgissent, on l'a évoqué tout à l'heure à demi-mot à propos de la cour pontificale, la grande réforme de la curie de Pie X en 1908, qui prend acte de la disparition des États pontificaux en donnant la première définition de ce qu'est la curie romaine, à savoir un ensemble de congrégations, de tribunaux et d'offices préposés au gouvernement de l'Église universelle. Au gouvernement de l'Église universelle, ce qui sous-entend qu'il n'y a plus d'Église locale, il n'y a plus d'État pontificaux. Et la curie romaine, vous le voyez par cette même définition, s'écarte, se sépare de l'ensemble de la cour. Cette architecture, à son tour, recevra des aménagements, bien évidemment, dès Benoît XV, mais en la matière, le pas ou l'étape la plus importante sera celle des accords du Latran de 1929, passé donc entre le pape Pie XI et son secrétaire d'État, le cardinal Gaspari, qui était un canoniste qui avait été l'artisan de la confection du code de droit canonique de 1917. Et Gaspari sera signataire de ces accords du Latran au nom du Saint-Siège avec le gouvernement de Mussolini. On dit toujours les accords du Latran, puisque cela désigne trois documents distincts. Un traité international qui assure au Saint-Siège une personnalité morale, personnalité juridique de droit international, un concordat entre le Saint-Siège et l'Italie qui fait naître une nouvelle entité qu'on appelle l'État de la Cité du Vatican, l'État de la Cité du Vatican qui est en quelque sorte le support institutionnel et gouvernemental du Saint-Siège, qui, lui, est l'entité dotée de la personnalité morale. Et le troisième document, de moindre importance, sauf qu'en pratique, cela pesait lourd, pour effectivement les pépettes, mais aussi les timbres-postes, les télécommunications, la gare et les interactions entre la place Saint-Pierre et le reste de la ville de Rome, une convention financière et fiscale. C'est dans cet état, si j'ose dire, avec la réforme de 1908 et les accords du Latran, que la curie romaine surgit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et là, comme vous le savez, c'est l'esprit du temps qui a changé. Celui qui va présider aux destinées du Concile Vatican II. l'ouverture au monde, l'ouverture à la modernité, le changement de l'ecclésiologie. Cela ne pouvait pas ne pas avoir d'incidence sur les structures de gouvernement. Et c'est ce qui conduit Paul VI, en 1967, à promulguer une vaste réforme qui ajoute d'autres types d'organes qu'on appelle les secrétariats et les conseils. Il y a par exemple, dès 1967, un secrétariat pour l'unité des chrétiens, un secrétariat pour les non-chrétiens, un autre pour les non-croyants, qui sont donc intégrés à la curie, et deux conseils, un conseil pour les laïcs, aujourd'hui réformé par le pape François, et une commission, la commission Justitia et Pax, la commission Justice et Paix. Mais dans l'ordre symbolique, le plus important de cette réforme, à retenir de cette réforme de Paul VI, c'est l'aggiornamento, le changement d'un certain nombre de dénominations, de structures de la curie, qui en était venu à faire un peu has-been, un petit peu, obsolète. En particulier, le Saint-Office ou Inquisition était une dénomination de plus en plus mal supportée. Ça faisait mauvais genre, ça rappelait beaucoup trop le Moyen-Âge. Cette congrégation, le Saint-Office, devient la congrégation pour la doctrine de la foi, dont le futur pape Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, sera le préfet avant son élection en 2005, à la mort de Jean-Paul II. De même, autre changement de dénomination, la fameuse congrégation de la propagande, instituée en 1622 par Grégoire XVI. De propagande, on retient surtout le sens politique, les médias retiennent surtout le sens politique, elle devient en 1967 la congrégation pour l'évangélisation des peuples. Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Et c'est sur ce socle que la dernière grande réforme de la curie, intervenue en 1988, est promulguée par Jean-Paul II. Avec de nouvelles notions ou de nouveaux principes de fonctionnement qui, avec le recul que l'on possède aujourd'hui, ne sont pas venus réellement clarifier l'organigramme existant, mais ont introduit au contraire de la complexité, notamment autour de la question très très délicate de la collégialité, du principe de collégialité, dont on a bien du mal à déterminer s'il s'agit d'une décision à prendre en commun ou d'un simple pouvoir consultatif. Rien depuis 1988 en termes de réforme, de configuration de la curie. Il faut attendre la fin de l'année 2014 pour que le pape François, dans un discours qui a fait date, donne la liste de 15 plaies ou de 15 maladies de la curie romaine, menaçant à ses yeux la vitalité de l'institution, parmi lesquelles la mondanité, l'hyperactivité, les rivalités, les bavardages, les calomnies et la zizanie. Pour y mettre bon ordre, François a institué en novembre 2013 ce qu'on appelle le G8, c'est-à-dire un groupe de cardinaux chargés de réfléchir à une nouvelle mouture de la curie romaine, à une révision de la Constitution Pastor Bonus de 1988. Dans l'intervalle, et c'est une source d'ambiguïté, l'an dernier, François a transformé ce G8 en C9, C'est-à-dire, on dirait presque un mouvement hein, sur un échiquier, c'est neuf, c'est-à-dire en conseil de neuf membres afin de lui apporter son concours dans le gouvernement de l'Église universelle. Autrement dit, l'ex-G8 n'est plus seulement chargé de réfléchir à une réforme de la curie, il en est devenu un acteur à part entière, court-circuitant d'ailleurs largement la secrétairie d'État, dont c'est le rôle traditionnel depuis la fin du consistoire des cardinaux. Et certains commentateurs se laissent aller à dire que c'est peut-être là le retour d'un gouvernement par consistoire. Quant à la réforme de la curie, eh bien, nous l'attendons encore. Il y a eu quelques premiers signaux, un dicastère, mais dont le statut est encore flou, intitulé, dont l'objet portera sur les laïcs, la famille et la vie, et sous la pression évidemment des scandales que nous connaissons et qui ont éclaté un peu partout dans le monde, une commission pontificale pour la protection des mineurs qui a été instituée en mars 2014. Mais nous n'avons guère de biscuits, guère de pistes sur les perspectives d'une réforme d'ensemble de la curie et sous quel principe. D'ailleurs, dans les milieux, comme on dit, autorisés, cette attente commence à devenir problématique. Elle commence à devenir problématique et c'est là un angle sous lequel le pape François s'attire des critiques de plus en plus vives, de plus en plus systématiques aussi. Et là, tout dernièrement, la publication dont vous avez peut-être été informé, la publication du dernier livre de Benoît XVI, qui a renoncé au pouvoir pontifical en 2013, qui est devenu pape émérite, un titre que le droit canonique ne connaissait pas, mais qu'on a forgé pour lui, et qui avait donc expliqué qu'il se retirait des affaires publiques de l'Église, le pape Benoît XVI, j'ai le livre ici, mais c'est sans je n'ai aucun droit d'auteur, croyez-moi, sur ce point, a donc co-signé avec un cardinal, le cardinal Sarah, cet ouvrage intitulé en français « Des profondeurs de nos cœurs » qui évoque les questions du mariage et surtout du célibat des prêtres. Or, c'est bien pour le pape émérite une manière de sortir du silence, de gêner à coup sûr le pape François et peut-être de préparer ou de trouver des repères dans la perspective d'un prochain conclave. Et c'est là notre deuxième temps, qui sera plus court que le premier. La deuxième phase, c'est des vacantés lorsque le pape est mort. La papauté ne dit pas « le pape est mort, vive le pape », mais elle connaît tout de même des procédures équivalentes. Cette phase, dite donc de sede vacante, de vacance du siège apostolique, provoque des changements importants dans le gouvernement de l'Église, même si ces changements n'ont qu'une vocation temporaire, transitoire. C'est un interrègne. Le premier changement tient à ce que, à l'instant même où le pape rend son dernier soupir, les dignitaires de la curie voient leurs fonctions cesser de plein droit, y compris le secrétaire d'État. C'est là, si j'ose dire, un régime universel, toute ressemblance serait fortuite, un régime universel qui forcément connaît quelques exceptions. Bon, il y a trois exceptions. La principale d'entre elles concerne un personnage très particulier à la tête d'un tribunal très particulier. C'est celui qu'on appelle le cardinal grand pénitencier ou pénitencier majeur. C'est un tribunal qui n'agit qu'en fonction ou que dans le domaine de ce qu'on appelle le fort interne, c'est-à-dire qui relève des consciences et de la spiritualité des fidèles. La pénitencerie est chargée d'examiner les demandes et éventuellement d'accorder, de céder aux requêtes en indulgence, en supplique, en faveur spirituelle de différentes natures. Et la doctrine canonique constante, c'est été de dire que ce n'est pas parce que le pape meurt que les grâces de Dieu cessent de se déverser sur les fidèles. Le pape est mort, mais Dieu n'est pas mort, tout de même. Donc, cela maintient en fonction le cardinal grand pénitencier. Les deux autres exceptions concernent le cardinal vicaire de Rome, celui donc qui fait office d'évêque de Rome lorsque le pape n'exerce pas sa charge de manière plénière, parce qu'il va devoir diffuser l'annonce de la mort du pape à tous les fidèles de l'État pontifical dans les temps anciens et à la ville de Rome aujourd'hui. Et celui qui est également maintenu en fonction, c'est le cardinal archiprêtre de la basilique Saint-Pierre qui va devoir organiser toutes les cérémonies de funérailles et d'entrée en conclave. Alors, l'interrègne, il est assuré par le Sacré Collège, encore, collectivement, mais aussi avec un chef exécutif qui est le cardinal Kamerlingue. Le cardinal Kamerlingue, Kamerlingue vient de camera, chambre, c'est le cardinal ministre des Finances du Saint-Siège. Et le fait qu'il prenne les rênes à la mort du pape procède aussi de l'idée que, pas plus que les grâces divines, les flux financiers ne doivent connaître d'interruption, c'est des vacantes. Il faut que les taxes et les impôts continuent d'être perçus par Rome. Et ce cardinal Kamerlingue, il a un rôle à la fois symbolique et exécutif. Le premier rôle symbolique, c'est de dresser le procès-verbal de la mort du pape. Et jusqu'à la fin du XVIIe siècle, il le faisait en tapant avec un petit marteau d'argent, en tapotant sur la boîte crânienne du pape défunt, en l'appelant par son prénom de baptême, et non pas par son nom de pontife. Et au bout de trois fois, si le pape ne répondait pas, eh bien, ce fidèle était déclaré mort. Dès lors, le Kamerlingue prenait tout un ensemble de dispositions transitoires, et notamment le bris de l'anneau du pécheur par lequel le pape authentifiait les actes de son pontificat, pour éviter la fabrication de faux par la chancellerie apostolique elle-même, qui pouvait éventuellement les vendre, mais ça remonte à quand même des périodes fort, fort, fort lointaines et fort obscures, ou alors des faussaires auraient pu récupérer l'ancien anneau et continuer à faire circuler de faux documents. Sur le plan exécutif, et là c'est toujours quelque chose qui est valable aujourd'hui, le cardinal Kamerlingue convoque le Sacré Collège pour un ensemble de réunions qu'on appelle les congrégations générales, à distinguer donc des congrégations romaines, qui sont les ministères de la curie. Ces congrégations générales, elles auront pour objet de déterminer les modalités des funérailles, donc tout ce qui est de l'ordre du cérémonial, de la liturgie, mais aussi les dispositions relatives à l'ordre public. Les pèlerins, les fidèles vont affluer, il faut s'entendre avec les autorités de la ville de Rome pour que cela se déroule dans le respect de l'ordre public. Une constitution de Jean-Paul II de 1996, toujours en vigueur, précise que ces congrégations générales prépareront, donneront des directives, en tout cas, pour la préparation du logement des cardinaux qui vont tous, en tout cas tous les cardinaux électeurs, qui vont tous être appelés à Rome pour le conclave. Et c'est la résidence Sainte-Marthe, dans l'enceinte même de la cité du Vatican, qui est préposée à cette tâche depuis une vingtaine d'années. Le conclave s'ouvrira au bout d'un délai minimal de 9 jours, ce que l'on appelait auparavant les novem diales, 9 jours qui correspondent à une période de deuil observée par la curie romaine. Et ce délai avait dû être allongé au début du XXe siècle, car Pie X et Benoît XV, ayant nommé des cardinaux américains, eh bien, aux deux conclaves de 1914 et de 1922, ces cardinaux sont arrivés après, n'ont pas pu arriver dans les 9 jours. Le conclave avait fermé ses portes et malgré leur qualité d'électeur, les cardinaux américains, nord-américains, n'ont pas pu participer au scrutin. Il est, de ce point de vue, fascinant d'observer l'étendue, l'épaisseur du corpus législatif et réglementaire entourant l'élection pontificale, qui mériterait évidemment une conférence de 5 heures à elle seule, mais ça je ne vous l'infligerai pas, soyez sans crainte. Pour une ampleur, une richesse du corpus qui dit surtout à quel point cette question de l'élection pontificale et du conclave est cruciale pour la papauté. Et elle l'est depuis fort longtemps. Les premiers textes qui régissent l'élection pontificale sont contemporains de celui qu'on a mentionné tout à l'heure, quand on évoquait le gouvernement plénier de l'Église, c'est-à-dire le XIe siècle, dans le contexte de la réforme grégorienne. Une période où l'on cherche à assurer la liberté du chef de l'Église. L'Église ne peut pas être libre si le pape est aux mains des souverains étrangers. Et ce sont deux textes de cette période qui vont fixer deux règles encore observées aujourd'hui, encore en vigueur. La première règle remonte au pape Nicolas II en 1059, qui réserve le monopole de l'élection pontificale aux cardinaux. Le peuple romain, en particulier, ni les dirigeants des puissances séculières, l'empereur, les rois, les princes, ne pourront intervenir dans l'élection. Deuxième règle, encore en vigueur, qui date de la fin du XIIe siècle, 1179, pour être élu pape, il faut recueillir sur son nom 2/3 des voix, une majorité qualifiée des 2/3. Cela est demeuré comme principe cardinal, si vous me passez l'expression. Il ne s'agit encore que d'élection pontificale, pas encore de conclave. Le conclave apparaît au XIIIe siècle, après un épisode très mouvementé, très tourmenté, de cardinaux qui se réunissent dans une petite ville de l'État pontifical à Viterbe. Et à Viterbe, l'élection pontificale dure 2 ans et demi. 2 ans et demi d'occupation, les cardinaux vivent dans la ville, ils sont là avec leur domesticité, ils mangent, ils devisent, puis de temps en temps, un petit tour de scrutin. La population s'impatiente et les autorités municipales de Viterbe décident d'enfermer les cardinaux, de pratiquer une ouverture par le toit du bâtiment et de leur descendre du pain et de l'eau jusqu'à ce qu'élection s'ensuive. En 3 semaines, le tour est joué. Le pape Grégoire X sort flambant neuf du conclave de Viterbe. C'est désormais un conclave, puisque les cardinaux sont réunis dans une pièce fermée à clé, cum clave. À clé. Ils sont reclus. La phase suivante, qui vous le savez, est celle du conciliarisme. Les conciles œcuméniques l'emportent sur une papauté chancelante. Eh bien, les conciles vont confirmer l'ensemble de ces règles en venant en ajouter d'autres, et notamment un serment que le pape doit prêter de maintenir la foi et le patrimoine de l'Église. On demande donc des garanties de la part du nouvel élu. Cela s'assortit de garanties qui sont demandées, alors un peu plus tard, au XVIIe siècle, de la part des cardinaux eux-mêmes. C'est aux cardinaux qu'on fera prêter serment, un serment qui s'intitule « d'honnêteté ». Ça paraît assez étrange de devoir faire prêter à un cardinal un serment d'honnêteté, mais je vous laisse juger. Et dans ce serment d'honnêteté figure notamment l'engagement de ne pas voter pour soi. Ce qui suppose donc que la chose se pratiquait, et peut-être même allègrement, dans les conclaves de l'époque moderne. Pour autant, et malgré cette réclusion, les États, les puissances séculières, ont parfois été tentées d'intervenir et de peser sur les opérations électorales. La monarchie espagnole, au fait de sa puissance, au XVIe siècle, avait même caressé le rêve d'un droit d'inclusive. Droit d'inclusive, c'est-à-dire le droit de faire savoir au Sacré Collège quel cardinal, quel candidat, entre guillemets, plairait le plus à Sa Majesté le roi d'Espagne. Elle n'a pas réussi à pousser ses pions, l'Espagne, mais elle a donné des idées aux autres puissances catholiques, notamment l'Empire germanique et le Royaume de France, pour cette fois-ci un droit d'exclusive, c'est-à-dire le droit de dire au Sacré Collège « Ah, le roi de France serait très fâché si tel cardinal venait à être élu et succédé sur le siège de Pierre. » Et cela, Louis XIV en 1700, l'empereur germanique en 1721 font usage de cette exclusive pour écarter des candidats qui ne leur plaisent pas. Ça paraît un mécanisme d'un autre âge, mais c'est oublié que la dernière utilisation de ce droit ou de cette prérogative revendiquée date du début du XXe siècle, au moment de l'élection de Pie X, en 1903. Il y a, au conclave de 1903, un papabile presque incontestable, le cardinal Rampolla, qui était le secrétaire d'État du pape, j'allais dire sortant, non, du pape défunt, Léon XIII. Et l'empereur d'Autriche, François-Joseph, charge un cardinal polonais, on charge toujours les cardinaux polonais des basses besognes, allez savoir pourquoi, l'évêque de Cracovie, pas de commentaire Jean-Yves s'il te plaît, ce cardinal polonais signifie au conclave que non, Sa Majesté l'empereur d'Autriche ne souffrirait point que le cardinal Rampolla soit élu. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup trop francophile. Péché, évidemment, de la plus grande gravité. Et cela trouble les cardinaux qui protestent, disant « liberté de l'Église », et néanmoins cela influe sur le scrutin. Rampolla, semble-t-il, se retire lui-même, c'est-à-dire prie ses collègues de ne plus voter sur son nom, de ne plus voter pour lui, et sort donc du conclave le patriarche de Venise, le cardinal Sarto, qui prend le nom de Pie X. En 1904, Pie X promulgue une constitution apostolique par laquelle il excommunie tout cardinal qui, à l'avenir, accepterait d'être porteur d'un message d'exclusive de la part d'un État séculier. Et de fait, ce mécanisme ne sera plus utilisé. Il est tombé aujourd'hui en désuétude. Depuis, plusieurs textes, c'est vrai, sont intervenus. Je vous ai dit que le corpus était copieux, mais qui n'ont apporté que des modifications, disons, à la marge. On va n'en retenir que deux. La première modification ou précision tient à une différenciation entre un cardinal et un cardinal électeur. C'est Paul VI qui, en 1975, va fixer une limite d'âge au-delà de laquelle le cardinal conserve sa dignité de cardinal, mais perd sa qualité d'électeur. Il faut donc soigneusement distinguer, dans la perspective d'un conclave, les membres du Sacré Collège et ceux qui sont susceptibles de fabriquer, entre guillemets, le futur pape. La deuxième modification, c'est celle qui tient à la dignité épiscopale de tout cardinal voulue par Jean XXIII. Jean XXIII le décide en 1962 pour qu'il y ait une homogénéité plus forte au sein du Sacré Collège et qu'on ne distingue plus les cardinaux évêques des cardinaux prêtres, des cardinaux diacres. Les trois ordres sont maintenus, mais il n'y a plus d'ordre de dignité ou de préséance. Et cela a contribué à, en quelque sorte, assainir la situation, dans la mesure où les cardinaux, après un certain temps passé dans l'un des ordres du Sacré Collège, avaient la possibilité d'en changer, de changer de titre, de changer d'ordre, par l'exercice de ce qu'on appelle un droit d'option, qui est réglementé lui-même par le droit canonique. Le code de 1983, actuellement en vigueur, est étonnamment prolixe sur cette question du droit d'option des cardinaux, alors que bon, ça paraît être d'une importance mineure dans la vie de l'Église. Alors, il serait évidemment vain, et puis même ridicule, de vouloir conclure ou même de refermer en quoi que ce soit cette enquête sur l'évolution institutionnelle de la Curie, une institution qui échappe largement aux critères et aux modèles d'analyse juridique, administratif, politique qui sont apparus, ayons-en conscience, à la période même que nous avons étudiée. Le concept d'État, le concept de démocratie, le concept de subsidiarité, le concept de justice ou d'équité, tels que nous les entendons aujourd'hui, ont été largement définis d'une manière contemporaine de ces évolutions que nous venons de caractériser pour la papauté. La question est donc celle du rapport à la modernité. Et l'institution ecclésiale en général, mais aussi et surtout cette monarchie élective et viagère qu'est la papauté, ont connu, nous l'avons vu, des moments clés de confrontation à ces modèles et à ces aspirations, en quelque sorte, séculières. La Révolution française, les révolutions de 1830 avec le mémorandum Metternich, de 1848 avec l'élection de Pie IX, l'année 1870, la prise de Rome, l'entre-deux-guerres avec les accords du Latran, ou encore les années 60 du XXe siècle, la réforme de Paul VI et le Concile Vatican II. Tout au long de cette période, et même cela s'enracine avant, la papauté a forgé, a défendu et a exposé un schéma interprétatif dépendant d'une philosophie et d'une théologie de l'histoire qu'on qualifie souvent de providentialiste. La providence, l'action de Dieu pour l'humanité, le plan que Dieu nourrit pour l'humanité. Et cette histoire providentialiste, intellectuellement, on peut la suivre selon un fil rouge cardinalis, évidemment, un fil qui part sans doute de saint Augustin, se poursuit avec Bossuet, puis Joseph de Maistre, jusqu'au pape de l'ère moderne et contemporaine eux-mêmes, qui rappellent régulièrement, dans les encycliques, dans les constitutions apostoliques, dans l'ensemble de leurs actes pontificaux, qui rappellent aux hommes qu'ils ne sont pas les seuls auteurs ou les seuls acteurs de l'histoire. Et que, même s'ils ont été créés libres, libres à l'image de Dieu, ils ne maîtrisent pas leur destin. Ils ne maîtrisent pas leur destin, ni la temporalité dans laquelle leur existence s'inscrit. Et c'est tout le problème d'être moderne ou de ne pas être moderne, d'être du monde ou pas du monde, du siècle ou pas du siècle. Et c'est peut-être cette continuité doctrinale qui est le terreau et peut-être même l'un des mystères, l'un des secrets profonds de cette longévité du plus ancien gouvernement du monde encore existant. Je vous remercie pour votre attention.